Gloire à Dieu. Bonjour à chacun et à chacune que je n'ai pas eu le temps de saluer ce matin. Vous allez vous apercevoir au fil du temps que le verset qu'Annelise a eu à cœur ce matin, « Qui enverrai-je, qui marchera devant nous ?» Et la réponse est « Me voici ». C'est encourageant ce genre de petit verset. Et je pense que ça introduit bien aussi le message de ce matin. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, et à partir du verset 29. Nous sommes dans un contexte où les disciples sont au large de la mer, et d'un seul coup, il y a Jésus qui arrive en marchant sur l'eau, et ils sont pris de panique, ils ont peur. Et donc, nous sommes dans ce verset-là, au verset du verset 29, chapitre 14 de Matthieu. C'est Pierre qui a peur et il dit à Christ, « Ordonne que je viens vers toi si c'est vraiment toi. » Et Jésus répond, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Simple verset très court. Mais je voudrais ce matin poser une question à chacun d'entre nous que je me pose à moi-même. En servant Dieu, en répondant oui à l'appel au service, est-ce que je suis prêt à marcher sur les eaux? J'ai bien dit je suis prêt. J'ai pas dit est-ce que je suis capable de marcher sur les eaux, parce que techniquement c'est impossible. Mais ça fait partie des miracles de la Bible. Au même titre que la mer s'est écartée pour laisser passer le peuple d'Israël, que le Jourdain s'est écarté de la même façon. Les miracles de Dieu, au même titre que il y a eu la multiplication du pain, du poisson, pour nourrir une multitude de peuples. Et là, ma question, c'est, suis-je prêt? Alors, je répète, pas capable. Parce qu'à partir du moment que Dieu nous demande de faire quelque chose, il va nous qualifier. Quelle que soit la chose qu'il nous demande, il sait de toute façon que je suis capable de le faire. Et il va nous qualifier. C'est un peu en parallèle de ce verset que nulle tentation ne nous survient sans que nous puissions la surmonter. C'est valable pour toutes les épreuves, mais c'est valable pour le service de Dieu. Aucune demande de Dieu, quelle qu'elle soit, ne peut être insurmontable pour nous-mêmes parce qu'il va nous qualifier pour aller dans son service. Alors ce matin, c'est oui, qui enverrai-je, qui marchera devant nous? Est-ce que je suis prêt à dire oui pour voir la puissance de Dieu se manifester dans le service qu'il me demande de faire? Est-ce que je suis prêt à y aller plus loin? Est-ce que la puissance de Dieu bouscule ma vie justement pour accomplir ce que Dieu veut que j'accomplisse? Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Dieu a préparé des œuvres pour chacun de nous. Et il est comme face à Pierre, il est face à nous, il nous dit « Viens ». Ne regarde pas aux choses impossibles, mais viens. Viens et tu vas vivre le surnaturel dans ta vie. Viens et tu vas être capable de marcher sur les eaux. Alors oui, j'ai envie de dire oui, je suis prêt. Parce que déjà, servir Dieu, c'est dans l'ordre des choses. C'est quelque chose de naturel que Dieu nous demande. Et quand on répond oui à son appel, les choses miraculeuses se passent dans notre vie. Mais c'est un choix. On peut aussi dire non, je ne suis pas prêt. Dans Luc chapitre 10, Jésus nous dit qu'en plus des 12 apôtres, des 12 disciples, il en a appelé 70. Ils ont répondu oui. Ils sont allés deux par deux. Et ils ont vu la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Ils ont vu Satan tomber du ciel en un éclair. Mais bizarrement, au moment de la Sainte Cène, ils sont plus que 12. Autour de Jésus. Les 70 ont peut-être fait le choix de dire « Ben non, on ne va pas aller plus loin. » C'est un choix. Alors remarquez que Jésus ne les condamne pas. C'est simplement noté. Ils ont fait un choix de ne pas aller plus loin. Ils sont plus que 12 autour de la Sainte Seine. Par contre, les 12 ont fait le choix d'aller plus loin. Et ils ont vécu les miracles. Ils ont vécu la puissance de Dieu. Alors, face au service de Dieu, j'ai envie de dire oui. J'ai envie d'être comme Paul, qui dira, j'ai couru la bonne course, j'ai gardé la foi jusqu'au bout, et j'ai acquis la couronne. Parce que les 70 qui ne sont pas allés plus loin, leur salut n'est pas en cause. Ils croient en Jésus, ils ont suivi Jésus un temps, et leur salut n'est pas en cause. Par contre, avec Paul, il y a le côté récompense qui arrive. Il y a le côté couronne qui arrive. Et j'ai vraiment envie de dire oui, Seigneur. Je suis prêt à te suivre et à marcher sur l'eau. Parce que j'ai envie de voir le surnaturel de Dieu dans ma vie. Parce que j'ai envie de voir la puissance de Dieu se manifester. Alors oui, ça commence par le service. Marc, chapitre 10, verset 35. Alors Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Être au service de Dieu, ça va nous permettre d'aller plus loin. Mais pour cela, il faut rester humble, il ne faut pas vouloir être le premier, il faut vouloir être le serviteur de chacun. Christ a lui-même manifesté cet exemple dans Matthieu 20, 28. « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » C'est ce qui nous attend. « Viens. » Et Pierre marcha sur l'eau. Sans regarder à la tempête, sans regarder à rien. Il n'a pas réfléchi. Et lorsque je suis dans cette notion de dire « Je viens. » Oui, me voici. Ça déclenche trois leviers dans notre vie spirituelle. Accepter de suivre Jésus, accepter de dire oui, Jésus, oui Seigneur, je viens. Ça déclenche trois leviers. Le premier, c'est le levier de la foi. C'est ce que je disais avec Paul, j'ai couru la bonne course, j'ai gardé la foi. Dire oui au service de Dieu, c'est déjà un pas de foi. Quand Pierre est sorti de la barque, il a eu un pas de foi. Il n'a pas cherché à réfléchir. Il a fait la foi. Je ne vous ferai pas un cours sur la foi, bien évidemment, mais vous connaissez tous ce verset de Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Il y a d'abord la parole de Dieu qui nous dit « Viens !» Et j'ai la foi. Quoi qu'il se passe, j'ai la foi. Quand Dieu me demande quelque chose, ça déclenche en moi la foi. Parce que je crois que ce que Dieu me demande, ce n'est pas au-delà de mes capacités. C'est tout à fait dans mes cordes. Même si à vue humaine, ça paraît impossible. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça le surnaturel de Dieu. À partir du moment que je dis « Oui Seigneur, me voici », ça déclenche la foi et le surnaturel de Dieu va avec. Le deuxième levier, c'est l'obéissance. On ne cherche pas à comprendre, on obéit. Martin Luther disait ceci, « Le vrai chrétien met à mort les questions du pourquoi et du comment ». Il obéit sans se poser de questions. Et c'est ce qui se passe avec Pierre. Ordonne que je marche sur l'eau. C'était peut-être une plaisanterie de sa part. Mais vu le tempérament, il est capable de demander n'importe quoi à Dieu parce qu'il sait que Dieu va exaucer. Ordonne. Et lorsque Jésus lui a dit, ben viens. Ah, il ne s'est pas posé de questions, il est sorti de la barque et il vient. Il ne se pose pas de questions. Abraham a reçu une parole de l'Éternel dans Genèse chapitre 17, verset 23. Dieu lui a dit, À partir de maintenant, il faut que tu circoncis tous les hommes. Et la parole nous dit, ce même jour, Abraham, son fils Ismaël et tous les gens de sa maison furent circoncis. Il y a l'obéissance immédiate. Il y a la chose qui dit, mais voilà, j'obéis maintenant. On ne se pose pas de questions. On pourrait remettre la chose à demain et dire, bon, ben, c'est pas grave, je vais obéir demain. Alors vous me direz, l'important c'est d'obéir. Mais si j'obéis demain, ça n'aura peut-être pas le même impact que si j'obéis aujourd'hui. C'est très différent. On a un autre exemple d'obéissance parfaite, d'obéissance totale. La pêche miraculeuse qu'on trouve dans Luc, verset 5:5. Pierre dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette le filet. » Déjà, sur ta parole, on voit le côté foi. Comme je le disais tout à l'heure, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Il a entendu la parole de Dieu et après il a obéi. On va essayer de se remettre dans le contexte de Pierre là. On suppose qu'il est parti hier soir à 20h à la pêche. Il travaille toute la nuit. Il revient de la pêche, bredouille, certainement déçu. Et quand on est déçu, on est très fatigué. On n'a plus envie de rien faire. Il répare ses filets, il nettoie ses filets. C'est ce qui est marqué sur la Bible. Hein. Après sa nuit de travail, il nettoie les filets. Jésus arrive. Oh, c'est dimanche matin, tu viens au culte. Et je prêche. C'est marqué. Hein. Jésus monta sur la barque de Pierre pour prêcher, pour apporter la parole. Alors il a travaillé toute la nuit, il répare ses filets. Et à 10h, c'est le culte. Il faut écouter la parole. Comme ce matin. Et à midi, à la fin du culte, Jésus lui dit, bon, ben maintenant tu retournes travailler, tu vas jeter tes filets à tel endroit. Seigneur, je suis fatigué. Hein, j'ai travaillé, ça fait 15 heures que je travaille là. Ça fait 2 heures que je t'écoute. Je suis fatigué, je crois qu'il va y avoir du poisson. On va attendre ce soir. Hein. Là, je vais me poser. Mais non, il a obéi tout de suite. Il a jeté les filets. Et la barque a débordé. L'obéissance et le surnaturel de Dieu qui se manifeste tout de suite. Alors peut-être que s'il avait attendu le soir même, la pêche n'aurait peut-être pas été aussi miraculeuse. J'en sais rien. En tout cas, il a obéi tout de suite. Et ça, ce sont les deux principaux leviers. Avoir foi dans ce que Dieu nous demande et obéir. Il y a un troisième levier, mais on va l'aborder tout à l'heure, un peu plus tard. Alors il y a des choses qui se mettent en place. Quand je dis oui pour le service de Dieu, eh bien ça va commencer par des petites choses. Et puis après on en fera des plus grandes. La Bible nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les plus grandes. Et ça, c'est important. Luc, chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les plus grandes. Et l'inverse est aussi vrai. Celui qui est infidèle dans les petites choses sera aussi infidèle dans les plus grandes. Alors, petit à petit, dans notre vie, Dieu va nous façonner. Lorsque je dis oui au service, il va nous façonner pour que plus nous avancions avec lui, plus que nous mettions notre foi dans ce qu'il attend de nous, plus les choses vont évoluer et plus on va voir la puissance de Dieu se manifester. Vous connaissez la parabole des talents que l'on trouve dans... Non, j'ai oublié de mettre le livre, mais c'est pas grave. Vous connaissez cette parabole. Je crois que ça doit être Matthieu 25, verset 14. C'est un homme qui part en voyage et avant de partir, il répartit ses biens entre 3 serviteurs. À l'un, il donnera 5 talons, à l'un, il donnera 2, et au troisième, il en donnera 1. Il nous est dit à chacun ses capacités. On voit bien que là, le maître, il connaît ses serviteurs par cœur. Il sait que celui qui va recevoir 5 talents, il va être capable de les utiliser. Et il sait aussi que celui qui en recevra 1, il est en principe censé et avoir la capacité de l'utiliser. J'aimerais inverser les choses, puisque je disais que celui qui est fidèle dans les moindres choses peut l'être dans les grandes. Eh bien, Dieu va commencer par me donner 1 talent. Il va commencer par me donner juste 1 talent. Alors, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de petit talent, il n'y a pas de grand talent. Il va me donner 1 talent. Il va me confier 1 chose. Et est-ce que dans cette chose, je vais être capable de montrer ma fidélité? Est-ce que dans cette chose, je vais être capable de dire oui et de percevoir la puissance de Dieu et de percevoir le naturel de Dieu? Les petites choses, il y en a plein. Hein. Par exemple, c'est quand Jésus dit dans Matthieu 25, 35, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Et alors les disciples diront à Christ, « Mais attends Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu dans cet état-là ? » Et il répondra, « Chaque fois que vous avez donné un verre d'eau à un enfant, c'est comme si vous l'aviez donné à moi. » Alors une toute petite chose, c'est savoir aider l'autre. Savoir un regard bienveillant sur l'autre. Et déjà, ce sont des petites choses. C'est un premier talent que Dieu nous confie. Aller vers l'autre, aller vers celui qui est dans la souffrance, aller vers celui qui a besoin. Dans Haït, les disciples avaient bien compris, parce qu'ils commencent à être débordés par la prédication, ils commencent à être débordés par l'œuvre spirituelle, et du coup ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus le temps de faire le social. Et ils diront, mais il n'est pas bon de délaisser les veuves. Il faut qu'on désigne quelqu'un de qui on rende un bon témoignage pour qu'il continue de s'occuper des veuves, des orphelins. Faire le social, c'est une façon d'avoir un premier talent. Il peut y avoir d'autres, hein. Ça peut être le ménage, ça peut être plein de choses, plein de petites choses. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. L'important, c'est de dire oui dans le talent que Dieu nous demande d'accomplir. Et là, dans ces petites choses, on voit le surnaturel de Dieu, parce que Dieu agit. Je pense avoir déjà raconté, mais lorsque, à une époque, je faisais une maraude, ce soir-là, dans Nantes, c'était l'anarchie totale. Il y avait des manifestations partout, il y avait des sirènes de pompiers, de policiers, d'ambulances partout. Et on était là à faire la maraude quand même. Et il y a l'armée qui est venue s'installer à notre place, là où on faisait la maraude. Alors je suis allé voir l'armée en disant, je peux voir le responsable là de votre escadron, là, parce que vous êtes en train de prendre notre place, si vous pouviez aller. Ils me répondent, on a eu ordre de vous protéger. On n'a rien demandé, nous. Dieu nous protégeait tout seul, parce qu'on était au service de Dieu. Parce qu'on avait accepté de dire oui. Le surnaturel de Dieu s'est mis en place et l'armée nous a protégés pendant toute la soirée. Gloire à Dieu. Les petits talents que Dieu nous demande, aller vers les uns et les autres pour simplement témoigner. Marc 16, allez apporter la bonne nouvelle. Ça, c'est un talent que Dieu nous demande d'accomplir. Ça, c'est ce que des petites choses que Dieu nous demande. Alors ça paraît des petites choses, oui, mais elles ont leur importance. Je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle « Dieu agit » d'Étienne Chesnais. C'est un prêtre charismatique qui fait beaucoup d'évangélisation. Et quand on rentre dans le service de Dieu, les choses commencent à s'accomplir par le jeûne et la prière. C'est la priorité. S'il n'y a pas dans notre vie cette partie de jeûne, de prière, on aura beau servir, je pense qu'il n'y aura pas de fruit. Parce que c'est avant tout par le jeûne et la prière qu'on arrive à discerner ce que Dieu veut nous donner comme talent. Un talent. Alors cet homme-là, il prie régulièrement. Et Dieu lui dit, écoute, ce soir tu vas à tel endroit. Tu vas rencontrer telle personne qui sera habillée avec un pull-over rouge, avec un espèce d'écureuil jaune sur le devant. Un pull-over avec un écureuil rouge. Oh, quelle honte. Faut pas. Moi, je ne mettrai pas ça. Il a obéi, il est allé, il a rencontré cette femme-là avec un pull-over rouge et un écureuil jaune. Et il lui a parlé. Parce que Dieu manifeste surnaturel quand nous obéissons. Ça, on peut tous le vivre. On est tous appelés par moment à prier pour telle ou telle personne. Et puis, on s'aperçoit que ça marche. On a à cœur telle ou telle personne et les circonstances divines font que elle nous appelle, on la rencontre. Et Dieu agit. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Parce que Dieu est puissant. Une fois qu'on a eu ce talent, que l'on a mis en œuvre ce talent, qu'on a obéi, qu'on a été fidèle avec ce talent, Dieu va nous en donner un deuxième. C'est pour ça que j'inverse la parabole. Il n'y a pas trois serviteurs, c'est le même serviteur qui est là. On commence par un talent et puis après on en a un deuxième. Et là peut-être que Dieu commence à nous travailler. Là peut-être que Dieu commence à nous façonner dans ce qu'il attend de nous. On a Genèse 22, verset 2. Dieu parle à Abraham et lui dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Lorsque Dieu commence à nous confier un deuxième talent, il va agir en nous pour nos priorités. Va sacrifier celui que tu aimes, ton fils unique. Et là, au lieu de me dire « va sacrifier ton fils unique », il me dit « va sur l'autel et sacrifie ce que tu aimes, ce que tu mets en avant, ce que tu mets en premier. » Parce que si on veut voir la puissance de Dieu, si on veut voir le surnaturel de Dieu, il y a peut-être des priorités dans ma vie qui doivent disparaître. Et quand j'accepte d'être comme Abraham, il est parti en ayant la foi. Il dira à son propre fils, « T'inquiète pas, Dieu va pourvoir à l'Holocauste. » Ça, il part avec foi. Mais il a surtout obéi. Et là, lorsque j'obéis à Dieu en disant, « Ok, je commence par mettre de côté tout ce qui est prioritaire de ma vie. » Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Ça veut simplement dire que Dieu les remet en place. D'ailleurs, Abraham récupère son fils à la fin. Parce qu'il a accepté de le mettre en sacrifice, Dieu lui a dit « Non, c'est bon, va pas plus loin, c'est pas la peine d'égorger ton fils. Je sais que tu as foi, je sais que tu es prêt à m'obéir. Donc tu vois, le taureau, il est là derrière toi, et tu récupères ton fils. » Ouais, un bélier, c'est peut-être mieux. Mais c'est pas grave, c'est un animal. Cela dit, t'as raison. Et voilà, mais il a quand même récupéré son fils. Alors ça ne veut pas dire que ce qui est en priorité dans ma vie, c'est interdit. Ça veut simplement dire que si je le mets en sacrifice devant Dieu, je vais le retrouver, mais à sa juste place, à sa juste valeur. Une deuxième chose que Dieu va me demander, Actes 9. Paul rencontre le Seigneur sur Damas. Il y a en lui cette véritable conversion. Et dans Actes 9, verset 32, le Seigneur s'adresse à Ananias au travers d'une vision. « Lève-toi, va dans la rue qui s'appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Pour aller plus loin, pour voir la puissance de Dieu se manifester sur ma vie, est-ce que je suis prêt à aller vers mon ennemi? Parce que pour Ananias, Paul était un ennemi. D'ailleurs, il le dit. « Seigneur, c'est quand même quelqu'un qui est en train de nous persécuter, là. Tu m'envoies à la cage au lion. C'est pas, il ne l'a pas dit, c'est moi qui le rajoute. Mais c'est un peu ça. Est-ce que je suis prêt à aimer mes ennemis? Est-ce que je suis prêt à venir en aide à mes ennemis pour voir la puissance de Dieu se manifester? Pour voir le surnaturel de Dieu se manifester? Si je suis prêt à marcher sur l'eau, est-ce que je suis avant tout prêt à aimer mon ennemi? Je ne vous demande pas la réponse. Pour moi, ce serait dur. Mais Dieu nous le demande et il faut savoir obéir. Il y a autre chose que Dieu va nous demander pour aller plus loin avec lui. Et si on veut vraiment voir cette puissance surnaturelle se multiplier, se développer dans nos vies. Genèse chapitre 12, verset 2. Dieu s'adresse à Abraham. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta nation, va-t'en de ta maison, va-t'en de chez ton père, là où je te dirai. Suis-je prêt à sortir de mon confort personnel? Suis-je prêt à laisser tout mon confort personnel derrière moi pour aller plus loin et voir la puissance de Dieu se manifester? À chacun sa réponse. Moi, j'ai envie de dire oui à titre personnel. J'ai envie de dire oui parce que chaque fois que Dieu me demande quelque chose, que ce soit de sacrifier ce que j'aime, de sacrifier mon confort personnel, de sacrifier mon orgueil, parce qu'aller vers son ennemi, c'est un peu l'orgueil qui en prend un coup. Et bien, j'ai envie de dire oui parce que je sais qu'au bout, il y a la victoire. Je sais qu'au bout, il y aura le surnaturel de Dieu qui va se manifester dans ma vie. Voilà, Dieu m'a donné 2 talents. Et maintenant, il va m'en donner 5. Parce que j'ai été fidèle avec 1 talent. Parce que j'ai été fidèle avec 2 talents. Et maintenant, il m'en demande 5. Et là, il commence à me demander des choses, mais impossibles à vue humaine. C'est là qu'intervient mon 3e levier. J'avais parlé de la foi en 1er levier, de l'obéissance en 2e levier. Et mon 3e levier qui va me permettre d'aller plus loin, ça va être la persévérance. Parce que Dieu va tellement me demander des choses impossibles, j'ai peut-être intérêt à persévérer. J'ai peut-être intérêt, c'est bien beau d'obéir, mais il va falloir y aller plus loin, il va falloir y aller... Ça va prendre du temps. Et là, on va voir 3 actions qui nous paraissent, à vue humaine, impossibles. 3 services, 3 œuvres pour lesquelles on doit rentrer dedans qui nous paraissent, mais à vue humaine, complètement, je dirais pas absurdes, mais si, aberrantes, invraisemblables. Genèse, chapitre 6, verset 14. C'est Dieu qui s'adresse à Noé. « Fais une arche de bois de gasfer. » Faire une arche qui va flotter, censée quand même flotter sur l'eau à un moment donné. Dans une période où il ne pleut pas spécialement. Dans une période, dans un lieu où on n'est pas forcément proche de la mer. Néanmoins, tu fais une arche. Et quand je parle de persévérance, la Bible nous dit que quand Noé a eu ses enfants, il avait 500 ans. Quand l'arche a été finie, il avait 600 ans. Donc je ne sais pas trop combien de temps l'arche a pris en construction, mais on peut considérer 50 ans, 60 ans. Puisque dans l'arche sont rentrés Noé, son épouse, ses 3 enfants et leurs épouses. Donc, s'il y avait les épouses, c'est qu'ils avaient 25, 30, 40 ans pour se marier, grosso modo, à l'époque, c'était ça. Hein. Donc, ça veut dire que, mettons, les enfants avaient 40 ans, en gros, 50, 60 ans, à construire une arche. Si ça, c'est pas de la patience. Surtout dans un lieu, je le répète, où la mer n'est pas vraiment à proximité. Dieu nous demande des choses où notre patience est mise à l'épreuve. Et pourtant, le surnaturel est venu, le déluge est venu, la puissance de Dieu s'est manifestée. et Noé, sa famille, ainsi que tous les animaux de l'arche ont été sauvés. Il y a eu foi, il y a eu obéissance, il y a eu persévérance. Quelque chose qui nous paraît aussi totalement invraisemblable, mais qui sert à la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu. Osée, chapitre 1, verset 2. Le prophète Osée. Là, Dieu lui demande quelque chose d'aberrant. Quelque chose de, je dirais presque d'anti-biblique. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel lui dit « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays, en parlant d'Israël, se prostitue et abandonne l'Éternel. » Aller prendre une femme prostituée pour se marier et avoir des enfants, à l'époque, bibliquement, c'était ouf. Il fallait vraiment avoir la foi pour obéir, là. Et il y a eu trois enfants qui en découlent. Qui ont eu le premier, c'est appelé Jisraël, qui veut dire dispersé. Première prophétie sur le peuple d'Israël, tu seras dispersé. Le deuxième enfant s'appelle Lo-Ruhama, ce qui veut dire pas de pitié. Et le troisième enfant s'appelle Lo-Hami, ça veut dire pas mon peuple. Au travers de ces trois naissances, Dieu parle à Israël. Et après, il y aura la puissance de Dieu qui va se manifester sur Israël. Et Dieu dira, tu peux appeler ton frère ami et ta sœur Rishama. Ça veut dire mon peuple et avec qui j'ai pitié. Il y a ce changement de choses. Il y a le surnaturel de choses qui se fait. Parce que là, il y a eu une obéissance, oser, si je puis l'exprimer ainsi, obéir à quelque chose qui, dans les mœurs, dans la culture, est tout à fait inconcevable. Troisième exemple, Ézéchiel, chapitre 4, verset 6. Ézéchiel est chargé d'apporter le jugement à la fois sur Israël et sur Juda. Et là, quand je parle de persévérance, j'ai lu deux fois, trois fois, pour être bien sûr que j'avais bien compris du chiffre. Dieu dira à Ézéchiel, voilà, tu fais une espèce de muraille qui représente une ville, tu mets des briques par terre, tu mets une muraille, puis entre toi et cette muraille, tu mets une poêle pour montrer l'iniquité qui existe. Et il dira, puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Et au verset 5 d'Ézéchiel 4, il est marqué, tu y resteras 390 jours. Sur le côté. Si ça, c'est pas de la persévérance, si ça, c'est pas de l'obéissance. Et après, il y a les détails. Hein. Tu seras même attaché pour être sûr que tu ne te retournes pas. Et puis, tu pourras manger ça et ça comme un aliment. Il y a tous les détails de la vie qu'il va avoir pendant 390 jours. Et ensuite, lorsque tu auras achevé ce séjour, verset 6, « Tourne-toi vers le côté droit et tu porteras l'iniquité de Juda pendant 40 jours. » Voilà ce qui est demandé à Ézéchiel. Quelle puissance là aussi. Et c'est la puissance de Dieu qui se manifeste avec le temps. Alors oui, j'ai envie de dire oui, mais je ne vous ai pas perdu là. Vous êtes toujours d'accord pour dire oui, Seigneur, je te suis. Oui, Seigneur, je viens. Oui, Seigneur, je veux le surnaturel. Ça va? Vous êtes tous là? Et oui, on se pose des questions quand même quand le surnaturel est là. Et puis, quand on en arrive à faire ce surnaturel de Dieu, les hommes n'apprécient pas du tout. Les hommes qui sont autour de nous se moquent, critiquent, essayent de nous humilier. lorsque les apôtres, dans les Actes, ont vécu le surnaturel de Dieu, Actes 5, ils ont été arrêtés, puis on leur a interdit de prêcher au nom de Jésus. On leur a dit, mais ne vous avions-nous pas dit de interdit de prêcher Jésus-Christ? Et Pierre répondra, mais et les apôtres aussi, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que même si ça ne plaît pas aux hommes, dans la mesure où je suis dans l'obéissance de Dieu, je verrai la puissance de Dieu se manifester. Et du coup, les hommes qui me critiquent aussi. Et ça peut changer leur vision des choses. Galates, chapitre 1, verset 10. C'est Paul qui parle. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. J'en arrive à ma conclusion ce matin et je vais reposer la même question que j'ai posée au début. Suis-je prêt à marcher sur les eaux? Suis-je prêt à avoir sur ma vie et sur tous ceux qui m'entourent, à avoir la puissance de Dieu, le surnaturel de Dieu qui se manifeste? Suis-je prêt? Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, il nous est dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à l'homme et non pas à moi. Suis-je prêt à être ce vase de terre, ce vase qui va être façonné par le potier qu'est Jésus-Christ ? Pour aller plus loin. Suis-je prêt ce matin à dire « Oui Seigneur, je viens ». Il y a cette question qui est annoncée, qui enverrai-je, qui marchera devant nous. Nous ne nous sommes pas consultés, mais ce verset est très parlant. Et à chacun de nous de répondre « Oui, je viens ». Je viens parce que je veux marcher sur l'eau. Je viens parce que je veux voir le surnaturel de Dieu se manifester. Et c'est comme ça que le monde qui est autour de nous aura cette connaissance de Dieu. Ils choisiront ou pas, mais lorsqu'il y a le surnaturel de Dieu qui se manifeste, lorsque l'onction de Dieu est sur une ville, sur une région, sur un lieu, on ne peut pas rester indifférent. Tous les grands réveils ont été comme ça. Il y a eu ce jeûne, cette prière, et il y a des serviteurs qui ont dit « Oui, je viens ». Et là, la puissance de Dieu s'est manifestée dans l'Église. La puissance de Dieu s'est manifestée dans le lieu où ils étaient. Et ça s'est répandu autour de nous. Voilà. Je laisse cette question à chacun d'entre nous. Suis-je prêt à marcher sur l'eau pour ta gloire? Merci, mon Dieu, mon roi. Je te loue parce que lorsque nous disons oui à ton appel, tu es celui qui nous qualifie. Lorsque nous disons oui à ton appel, tu es celui qui nous soutient, qui nous fait aller plus loin. Merci Père, parce qu'au travers de nous, tu agis par le surnaturel. Tu peux le faire tout seul, mais tu nous fais ouvrier dans ta moisson, afin que, pour ta gloire, nous soyons des instruments de bénédiction autour de nous. Soyez bénis.